Nouvelle mobilisation des patriotes à Paris contre l'OTAN et les restrictions énergétiques. Le parti présidé par Florian Philippot a réuni à Paris le 8 octobre, partisans de la sortie de la France, de l'OTAN et opposants à la politique énergétique du gouvernement. L'eurodéputé Gilbert Collard était dans la foule. Rendez-vous national de la résistance, c'est sous ce titre que le parti souverainiste Les Patriotes a organisé cet après-midi du 8 octobre une mobilisation dans le quartier Montparnasse à Paris, place du 18 juin 1940. Parmi les motivations de ce rassemblement, l'opposition au bellicisme de l'OTAN, le sabordage de l'économie par l'exécutif et les restrictions énergétiques et sanitaire selon la section locale des Patriotes sur Twitter. Cette dernière raison fait écho au plan de sobriété controversé présenté récemment par le gouvernement dans un contexte de crise énergétique en partie liée aux sanctions et contre-sanctions autour du conflit en Ukraine. Des centaines de personnes se sont jointes à cette manifestation comme en témoignent des photos et vidéos postées sur Twitter par des militants des Patriotes. Parmi les personnalités ayant participé à la mobilisation figurait également l'avocat Fabrice Divisio, habitué des manifestations organisées par les Patriotes, mais aussi l'ex-député RN Gilbert Collard, qui avait raillé Éric Zemmour lors de la dernière campagne présidentielle. La résistance se rassemble et s'est félicité Florian Philippot, le chef des Patriotes, dans la foulée. Ce parti a été particulièrement actif contre les restrictions de liberté liées à la pandémie de COVID-19 ces deux dernières années. Il organise désormais régulièrement des manifestations pour la sortie de la France de l'Alliance Atlantique et de l'UE et contre la politique internationale et énergétique du gouvernement. Macron tiers mondialise la France et crie certains manifestants. En Guyane, des échafaudés ont éclaté à Maripasoula après des coupures d'électricité. Maripasoula, commune de plusieurs milliers d'habitants située dans l'ouest de la Guyane, a été le théâtre d'affrontements pour la deuxième nuit consécutif depuis le 5 octobre. Les habitants de cette localité sont descendus dans la rue pour protester contre les coupures d'électricité trop fréquentes. Des échafaudés ont éclaté dans la nuit du 5 au 6 puis du 6 au 7 octobre à Maripasoula, une ville d'environ 12 000 habitants située à l'ouest de la Guyane, après des coupures intempestives d'électricité. Des voitures ont été endommagées par une vingtaine de personnes qualifiées de casseurs par le préfet Thierry Kefelec. Les manifestants ont aussi visé la centrale de production EDF en cours de réparation. Des barricades avaient été dressées devant la caserne des pompiers pour ralentir leur intervention selon la même source. Le président de la collectivité territoriale de Guyane, l'ancien député de gauche Gabriel Serville, s'est rendu sur place le 8 octobre avec une délégation. Selon Guyane, la première des mesures d'urgence ont été mises en place par la collectivité, parmi lesquels la mise en place d'un pont aérien pour le transport de denrées, eaux minérales et médicaments au profit de la population de Maripasoula. Sauf que la population serait mécontente de ces décisions puisqu'elle serait davantage excédée par les coupures et le manque d'électricité. Depuis deux semaines, les habitants de ce bourg situé en amont du fleuve Maroni, face au Suriname, connaissent en effet des coupures de courant longues et répétitives. Les pompes à eau ayant été touchées, le courant a été coupé dans certains foyers. Le directeur d'EDF Guyane, Martin Voisin, avait expliqué devant la presse le 6 octobre à l'issue d'une réunion avec le président de la collectivité territoriale que depuis deux semaines, plusieurs avaries avaient abîmé les moteurs qui alimentent la centrale électrique de Maripasoula. Cette centrale comprend 5 moteurs et pour que la population ait de l'électricité, il faut que 3 moteurs en moins fonctionnent, a-t-il précisé. Mais le 3 octobre, une nouvelle avarie n'a laissé qu'un seul moteur en fonctionnement, une situation dramatique pour le directeur. Dans la nuit du 5 au 6 octobre, un système a été redémarré. Toutefois, deux moteurs n'étant pas suffisant pour alimenter la population, il a fallu recourir à des délestages tournants. Le 7 octobre, à 11h, 4 groupes électrogènes mobiles ont été raccordés au réseau permettant de ralimenter 60% de la population, a fait savoir EDF dans un communiqué. Marie Passoula fonctionne avec 8 gendarmes au quotidien, a détaillé le préfet face à la presse le 7 octobre. Mais face aux tensions, 23 gendarmes mobiles en repos en forêt ont été envoyés en renfort, ce que Marie Passoula n'avait pas vu depuis un petit moment. Selon Thierry Kefelec, dans la nuit du 6 au 7 octobre, 10 autres gendarmes équipés pour le maintien de l'ordre ont été dépêchés dans cette commune qui, avec ses 18 km² est la plus étendue de France. Les vols assurés par la compagnie Air Guyane sont suspendus depuis le 6 octobre, empêchant de rallier la commune à la préfecture Cayenne. La Douma considère l'incident du pont de Crimée comme une déclaration de guerre lors d'une première réaction après l'incident qui a provoqué un incendie dans un train de carburant. Oleg Morozov, vice-président de la Douma en Russie, a qualifié l'explosion d'un camion sur le pont de Crimée de déclaration de guerre dans une première réaction après l'incident qui a mis le feu à un train russe de carburant. La chaîne d'information Russia Today a rapporté les déclarations de Morozov qui a affirmé: une guerre terroriste peu convaincante est menée contre nous. L'attaque terroriste contre le pont de Crimée n'est plus seulement un défi, mais une déclaration de guerre sans règles. Le parlementaire a souligné que le fait de ne pas riposter de manière adéquate et appropriée à cet acte fera que de tels incidents se reproduiront dans de nombreux cas. Si nous restons silencieux et ne répondons pas de manière adéquate, ces attaques se multiplieront plus tard, a ajouté Morozov. Plus tôt dans la journée, les autorités russes ont annoncé qu'un train de carburant avait pris feu à la suite de l'explosion d'un camion sur un pont reliant la Russie à la Crimée. Par la suite, le président russe Vladimir Poutine a ordonné la formation d'une commission chargée d'enquêter sur les circonstances de l'incident survenu sur un point d'importance stratégique pour la Russie. La Pologne voudrait s'impliquer dans le concept de partage nucléaire de l'OTAN. Actuellement, dans le cadre du partage nucléaire de l'OTAN, les États-Unis ont conservé une centaine de bombes nucléaires tactiques B-61 stockées dans des dépôts situés dans 5 pays, dont l'Allemagne Buchel, la Belgique Kleinbrogel, les Pays-Bas Volkel, la Turquie Ingerlik et l'Italie Gedi et Aviano. Ce partage nucléaire repose sur le principe dit de la double clé. En clair, si ces 5 pays pourraient être amenés, le cas échéant, à utiliser les bombes B-61 dont ils disposent le contrôle de celles-ci et donc le code d'armement relève exclusivement des États-Unis. Et cela suppose pour les alliés concernés de disposer des moyens adéquats pour faire face à une telle éventualité. D'où leur volonté de se procurer des chasseurs bombardiers dits de 5e génération F-35. A noter qu'il n'est pas certain qu'à l'avenir, la Turquie puisse maintenir sa participation au partage nucléaire de l'OTAN, étant donné qu'elle a été exclue du programme F-35 après avoir mis en service des systèmes russes de défense aérienne S-400. La Pologne pourrait-elle la remplacer, elle qui a commandé 32 F-35E? Son président Andrzej Duda le souhaite. C'est en tout cas ce qu'il a affirmé dans un entretien publié par l'hebdomadaire Gazeta Polska. Et cela alors que le président russe Vladimir Poutine a brandi la menace nucléaire à plusieurs reprises depuis le début de la guerre en Ukraine. Il semblerait que l'art du président humoriste ukrainien à la voix de Centaure se soit transmis à ses soldats. Malaise sur le plateau de #LCI. Lui, saillant ancien officier des commandes de la marine, doute de la vidéo des Ukrainiens trop belle pour être vraie. Petit bug sur LCI avec l'expertise de M. Louis Saillant, ancien officier de commando de marine, qui voit de manière claire et démontre simplement à quel point cette vidéo ukrainienne et grossière. Alors qu'ils sont en train de filmer des soldats russes en reddition, ils se demandent pourquoi les images sont trop belles, pourquoi elles ne tremblent pas, pourquoi les Ukrainiens sont tout le temps cagoulés et très bien équipés. Bref, pourquoi tout ça est trop beau et donc que faux. N'importe qui aurait pu faire cette analyse, mais c'est sans compter sur les journalistes parisiens et stipendiés par la Doxa et le système des oligarques propriétaires de médias. Faut-il leur rappeler qu'ils ont déjà essayé de faire passer une cheminée tordue pour un missile russe?